Radio Kapi.
La Chine vient appuyer la RDC dans son projet de développement à la base des 145 territoires. Ceci ressort de l'audience que le Premier ministre a accordée à l'ambassadeur chinois ce week-end à Kinshasa. En effet, la Chine avait déjà annoncé 9 programmes dans ce sens en décembre dernier. L'arrangement des magistrats en RDC, la question devient plus préoccupante. Tenez, seulement 3000 magistrats administrent la justice pour plus de 80 millions d'habitants dans les 26 provinces. C'est insuffisant, a dit la ministre de la Justice. Plusieurs organisations font pression pour que des nouveaux magistrats soient nommés. Province du Kasaï, le ACR a initié depuis 2021 à Chikapa un projet de stabilisation et de réintégration effective de 600 ménages rapatriés et déplacés internes. Pour en parler, nous recevons Jean Gandou, l'un des bénéficiaires du projet et chef du comité des rapatriés et retournés d'un des sites. Madame, Messieurs, bonjour. La Chine accepte d'accompagner la RDC dans la mise en œuvre du projet de développement à la base de 145 territoires congolais. C'est ce qui ressort de l'audience que le Premier ministre Samalou Kondé a accordée à l'ambassadeur chinois en poste en RDC ce week-end à Kinshasa. Zhu Jing, ambassadeur chinois, rappelle que lors de la 8e conférence ministérielle du Forum de coopération sino-congolaise organisée en décembre 2021, le gouvernement chinois avait annoncé 9 programmes pour promouvoir la coopération entre les gouvernements chinois et congolais. Il s'agissait d'élaborer la liste des projets dans quelques secteurs, notamment la santé publique et l'agriculture, ainsi que la promotion des investissements et du commerce. Pour lui, la stratégie du gouvernement congolais de développement à la base de 145 territoires est une stratégie de taille et louable. Zhu Jing, ambassadeur chinois, dans cet extrait choisi par Billy Vandutumba.
Le programme couvre beaucoup de domaines à partir de la santé publique, par exemple avec les dons des vaccins anti-Covid. Il s'agit aussi de promouvoir des investissements, promouvoir le commerce bilatéral, promouvoir la coopération dans le secteur agricole. Et surtout, ces 9 programmes correspondent bien à la stratégie du gouvernement congolais, en particulier les 145 territoires. Nous voulons bien travailler avec nos amis congolaises pour identifier, concevoir des projets de coopération concrètes pour que cette coopération bénéficie davantage au développement du Congo. Nous sommes disposés à accompagner le gouvernement congolais à la mise en œuvre de ce programme, puisqu'on sait bien que ce programme est très important pour le gouvernement congolais, mais surtout pour la population congolaise.
Sachez que le développement local de 145 territoires est un programme du gouvernement de la RDC. Il a été lancé par le Premier ministre le 9 octobre 2021 à la mission catholique de Lonzo, 40 km de Kenge dans la province du Kwango. Ce programme est financé principalement par l'État congolais à hauteur de plus $1,660 milliards. Son but est d'accroître l'efficacité des politiques publiques et de réduire rapidement la pauvreté et les inégalités spatiales dans le pays. Au cours de sa tournée dans le Grand Kasaï, le chef de l'État est revenu plusieurs fois dans ses meetings devant la population, a expliqué le bien fondé de ce programme de développement de 145 territoires. D'autres détails avec Esther Ndalafina.
Ce programme est organisé autour de 4 composantes, dont notamment l'amélioration de l'accès des populations des territoires ruraux aux infrastructures et services socio-économiques de base. Il s'agit en effet de la réhabilitation et construction des routes, des dessertes agricoles, des micro-centrales photovoltaïques, des écoles, des centres de santé et des marchés, des bâtiments administratifs des secteurs, des territoires ainsi que des logements du staff dirigeant du territoire. La deuxième composante est de promouvoir le développement des économies rurales en améliorant la productivité, augmenter les revenus des ménages ruraux et assurer la sécurité alimentaire. La troisième composante concerne le renforcement des capacités de gestion du développement local et enfin la quatrième composante vise principalement également à mettre en place un dispositif efficace de suivi et d'évaluation des progrès du programme. Lors de sa tournée dans le Grand Kasaï, le président de la République a plusieurs fois expliqué aux populations le bien fondé de ce programme de développement des 145 territoires. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
On va développer le pays à travers le développement de 145 territoires. Dès le début de l'année, on va construire les écoles, les hôpitaux, les palais de justice, les routes et promouvoir l'agriculture.
Lors de sa présentation, le Premier ministre a souligné que la mise en œuvre de ce programme aura des effets immédiats, des impacts réels sur la réduction de la pauvreté et des inégalités sociales.
Par ailleurs, le président de l'unité de 26 provinces U26 demande à la population de la province du Kasaï oriental de s'accrocher au projet de développement à la base de 145 territoires initié par le chef de l'État. Pour la réussite de ce grand projet, la population doit bannir tout esprit de division et de séparation, a dit Trésor Mpumbu Mukadi au cours d'un point de presse tenu hier à Kinshasa. Il est au micro de Richard Junior Kamunga.
Par l'amour de notre population et l'amour du pays, on comprendra qu'il faudrait aller directement vers le problème réel qui ronge notre population. Par exemple, aujourd'hui, Kasaï Oriental est en train de connaître une crise de faim. Et avec cette crise de faim, il faudrait, j'y rentre maintenant vers la vision du chef de l'État qui vous dit, il faudrait que le sol puisse prendre sa revanche sur le sous-sol. Il faudrait intensifier notre agriculture. Il faudrait mettre en valeur notre culture vivrière. Il y a tant de mesures à prendre qui passent aussi par la construction de routes de dessertes agricoles. Et tout ça, c'est ce qu'il faudrait maintenant matérialiser par la bonne gouvernance, je dirais. Le premier obstacle qui freine le développement du Kasaï oriental, c'est l'unité. Cette unité commence à nous quitter peu à peu et nous nous caractérisons beaucoup plus dans des conflits et des guerres fratricides inutiles. C'est pourquoi nous pensons qu'à travers l'unité, on peut rassembler aujourd'hui le Kasaï oriental est presque déchiré. Il y a des antagonistes qui essaient de créer des camps.
Et puis, les exonérations douanières ont causé une perte de revenus d'au moins 6,3 milliards de dollars, soit une moyenne annuelle de plus de 630 millions de dollars. Ceci est contenu dans le rapport du groupe d'études sur le Congo GEC, rapport publié en ce mois de janvier. Ceci rejoint l'inspection générale des finances IGF qui, selon le GEC, le pays perd plus de 5 milliards de dollars par an à cause des exonérations fiscales et des compensations injustifiées. Le condensé de ce rapport avec Rachel Kessembangou.
Le groupe d'études sur le Congo GEC collecte depuis 2018 des données sur les exonérations fiscales, notamment en examinant les pertes enregistrées par la Direction générale des douanes et assises. De 2011 à 2020, les données en possession du GEC indiquent que les exonérations douanières ont causé une perte des revenus d'au moins 6,3 milliards de dollars, soit une moyenne annuelle de plus de 630 millions de dollars. Dans ce rapport, le GEC se focalise sur deux avantages fiscaux fournis dans les cadres des douanes, les exonérations dérogatoires et celles fournies dans le cadre du partenariat stratégique sur la chaîne de valeur. Les secteurs miniers, considérés comme le moteur de l'économie congolaise, est le plus grand bénéficiaire des exonérations. Les exonérations douanières pour les sociétés minières se sont élevées à 2,8 milliards de dollars entre 2011 et 2020. Comme ces exonérations fiscales sont sujettes à des abus, les gouvernements congolais devraient y mettre fin, exception faite à celles qui sont autorisées à une loi spécifique. Pour toutes les autres exonérations, les ministères des Finances devraient rendre publiques les justifications pour chaque entreprise bénéficiaire et devraient effectuer des audits pour prévenir des abus. Ce rapport affirme qu'une année après l'investiture de Félix Tshisekedi, les exonérations fiscales ont finalement fait couler beaucoup d'encre à la suite des enquêtes de l'IGF. Cette structure a conclu en août 2020 que la RDC enregistre une perte annuelle de 5 milliards de dollars américains à cause des exonérations et compensations fiscales dont certaines sont illégales.
Parlons justice à présent. La carence des magistrats est préoccupante à travers le pays. Plusieurs organisations ne cessent de faire pression pour que des nouveaux magistrats soient nommés afin de rendre les tribunaux opérationnels. Lors de la 37e réunion du Conseil du gouvernement du 21 janvier, le président de la République a chargé le président du Conseil supérieur de la magistrature de mettre en place avec le concours du gouvernement un cadre de concertation pour permettre le recrutement des nouveaux magistrats civils et militaires ainsi que des conseillers référendaires. Des précisions avec Jeff Ngoy Mulunda.
À travers les 26 provinces congolaises, un peu plus de 3000 magistrats administrent la justice pour une population de plus de 80 millions. C'est amplement insuffisant selon la ministre de la Justice qui pense qu'il en faut plutôt 10 000 pour couvrir tous les besoins en matière judiciaire en RDC. Le dernier recrutement des magistrats remonte à 2009-2010. À ce moment-là, le pays ne compte que 11 provinces, c'est-à-dire seulement quelques dizaines de cours d'appel aux tribunaux. Avec le passage de 11 à 26 provinces, en 2015, le nombre de cours et tribunaux a plus que doublé. Cela est venu aggraver la situation sans un nouveau recrutement. En 2017, une enquête de la Commission spéciale du Conseil supérieur de la magistrature a révélé que sur les 3000 magistrats, 200 étaient des faussaires et fictifs. Une année après, en 2018, le président Joseph Kabila signe alors plusieurs ordonnances révoquant des magistrats et portant sur des démissions volontaires ou d'office, de la mise à la retraite, la relève anticipée des fonctions ainsi que la nomination de certains magistrats. Comme si cela ne suffisait pas, la majorité des magistrats affectés dans toutes ces juridictions est concentrée dans les grandes agglomérations, surtout à Kinshasa où l'on compte plus de 300 magistrats selon le Conseil supérieur de la magistrature. La plupart de ceux qui sont affectés dans les milieux ruraux refusent souvent de s'y installer. Qu'est-ce que cette problématique a comme incidence sur la justice congolaise? Notre prochaine édition tentera d'y répondre.
Rendons-nous dans le Grand Équateur. Une semaine après le naufrage de la baleinière HB Banaba Bonkosi sur le fleuve Congo, on en sait un peu plus sur le bilan total. On compte 7 morts et 180 rescapés. En effet, il y a eu dislocation de l'embarcation due notamment à son état vétuste et les passagers ont tout perdu. C'est ce qu'a révélé le député provincial élu du territoire de Bomongo d'où provenait la baleinière. Trésor Zengue a fait partie d'une mission d'enquête mixte qui s'est rendue samedi sur le lieu de l'accident. Il lance cependant un cri d'alarme à l'endroit du gouvernement central ainsi que des humanitaires afin de voler au secours des sinistrés. Le député Trésor Zengue, joint au téléphone par Paul Richard Malengela.
On a été au lieu du naufrage ensemble avec l'équipe gouvernementale. Le bilan total du naufrage, c'est de 7 morts, dont 2 personnes décédées, 6 places, une maman et un enfant de 10 ans. Et les 5 corps ont été repêchés du 19 au 20. Donc, ils sont morts par noyade. La situation que nous avions trouvée là, c'est que sûr, quand il y a naufrage, les rescapés, ils ont tout perdu. Il y a eu dans cet accident 180 rescapés, dont 17 ont été blessés gravement et ont été acheminés en Bandaga pour les soins appropriés. C'est à charge du gouvernement provincial. Parce que j'avais organisé un convoi de 4 pirogues motorisées qui les a amenés tous en Bandaga. Ils sont dans leur famille d'accueil. On entendra les dispositions du gouvernement provincial qui vont intervenir d'ici là. Nous lançons un appel à l'égard de tous les partenaires, y compris le gouvernement national, même les humanitaires. Ces derniers temps, ils n'ont pas mangé. Ils ont perdu tout ce qui concerne leurs habits. Il y a d'autres aussi qui ont des traumatismes, même si que le gouvernement provincial les prend en charge. Mais l'intervention de nos partenaires nous serait vraiment très bénéfique.
Autre nouvelle, les immenses potentialités dont regorge la République démocratique du Congo dans tous les secteurs, dont le tourisme et l'industrie des batteries et des véhicules électriques, ont été vendues en Espagne ce week-end au cours de la soirée du Congo à Madrid. Le ministre du Tourisme, Moderon Simba, et son collègue de l'industrie, Julien Paluku, en ont profité pour séduire les investisseurs européens et autres qui ont participé activement à cette activité. D'autres détails avec Richard Junior Kamunga.
Dans son allocution, le ministre du Tourisme a montré que la RDC est un pays solution grâce à ses ressources naturelles et sites touristiques historiques. Modéré Simba.
C'est l'unique pays d'Afrique où vous avez les lacs, un grand fleuve, vous avez les volcans en activité, vous avez les produits touristiques, les Big Five, ça veut dire crocodiles, éléphants, gorilles des montagnes, gorilles des savanes.
Le ministre de l'Industrie a quant à lui développé le plan directeur d'industrialisation de la RDC chiffré à plus ou moins 58 milliards de dollars américains et le projet d'industrie des batteries et des véhicules électriques car le pays de Félix Tshisekedi dispose des minerais stratégiques dans la fabrication de ces dernières. Et Julien Paluku.
L'image du pays a souvent été ternie alors que la criminalité qu'on observe ça et là se passe aussi partout à travers le monde. La RDC est une terre d'opportunités. Le domaine qui intéresse tout le monde, c'est l'agriculture. Nous avons un espace important qui est l'équivalent de l'Espagne et de l'Allemagne réunies. Nous avons partagé aussi que la RDC, c'est la solution aujourd'hui sur la grande problématique du réchauffement climatique. La RDC est la meilleure destination en matière d'industrie sur les batteries électriques.
Une soirée a été incrémentée par l'orchestre des héritiers Watanabe, une manière pour la RDC de promouvoir la rumba inscrite désormais dans le patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO.
Actualité Afrique Monde.
Des soldats se sont mutinés hier dans plusieurs casernes du Burkina Faso pour réclamer le départ des chefs de l'armée et des moyens plus adaptés à la lutte contre les djihadistes qui frappent le pays depuis 2015. Le gouvernement reconnaît des tirs dans plusieurs casernes, mais a démenti une prise de pouvoir par l'armée. Dans la soirée, les autorités ont décrété un couvre-feu de 20h à 5h30 jusqu'à nouvel ordre. Cela sur toute l'étendue du Burkina Faso où des mutineries ont éclaté dans plusieurs casernes.
L'invité.
Il nous vient de Tchikapa dans la province du Kasaï. Le ACR a initié depuis l'an dernier un projet de stabilisation et de réintégration effective de 600 ménages rapatriés et déplacés internes. Cette agence onusienne construit des maisons, des salles de classe et donne des semences agricoles à ces ménages des déplacés à Kapingankundi, 65 km de la ville de Tchikapa, et à Chamusanda, 12 km. Pour en parler, nous recevons Jean Gandou, l'un des bénéficiaires du projet et chef du comité de rapatriés et retournés d'un des sites. François Kadima l'a rencontré sur place.
Monsieur Jean Gandou, bonjour.
Bonjour.
Expliquez-nous les circonstances de votre départ et le retour ici.
Nous avons passé un moment difficile dans la frontière de notre pays.
Quelle frontière?
À Kamako, Kabongo et plusieurs frontières là-bas. Nous avons connu une catastrophe humaine. Il y avait des menaces, il y avait des milices de Kamwenantapu qui sont entrés là-bas. Ils nous ont menacés. Suite à aussi à ces menaces-là, nous sommes retrouvés de l'autre côté de l'Angola. Nous étions regroupés par l'HCR et le gouvernement angolais. Nous avons passé là-bas 2 ans et demi. Alors, un jour, nous avons vu les délégations de notre gouvernement. Pour la première fois, on a reçu le gouverneur de la province de Kasaï. Et la deuxième fois, nous avons reçu le ministre de l'Intérieur de notre province de Kasaï. Et nous a mobilisé, nous a sensibilisé de retourner à notre pays. Et seulement quand nous sommes retournés à notre pays, alors il y avait un peu la difficulté qui s'est passée.
Quelle année vous êtes rentré?
Nous sommes rentrés ici en 2019. Nous sommes venus dans deux tranches. Nous sommes venus dans deux parties. Nous sommes venus, c'est ceux qui sont venus premièrement. Ils sont venus dans leur rapatriement spontané. Nous sommes sortis dans huitième mois, le 17. Nous étions déjà à la frontière de Kamako. Alors, le quatrième mois, je pense, c'est là où l'HCR a organisé le rapatriement volontaire et organisé. Nous sommes retrouvés à Tchikapa. Il y avait un peu de difficultés. Nous sommes localisés pour le moment. Nous sommes ici à Kapingankundi.
Kapingankundi, c'est un village. Est-ce qu'on vous a amené ou vous avez choisi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou c'est l'HCR qui a décidé de vous donner cette place?
Non, nous-mêmes, étant que des rapatriés, suite à la discussion et la difficulté qu'on est en train de traverser, nous avons un comité. Dans notre comité, nous sommes donné des idées. Qu'est-ce qu'on peut faire afin qu'on puisse nous aider? Alors nous sommes venus demander cet endroit. C'est le comité qui est venu demander au chef du gouvernement, Kapingankundi. Alors nous sommes convenus avec lui. Il nous a fait un document qui était valable. Nous avons amené le document là chez HCR et le gouvernement provincial. Alors, quand ils ont aussi vu cela, ils ont compris que non, il faut que vous puissiez nous aider. Ils sont venus se vérifier. C'est tout à fait que nous sommes maintenant ici à Kapingankundi.
Ici, le HCR construit 200 maisons, hein? 150 pour les rapatriés et 50 pour la communauté locale. Alors, une satisfaction. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet?
Oui, nous commençons d'abord pour remercier le HCR et le gouvernement provincial, puisque on ne savait pas qu'on devait être aidé de la manière que nous sommes maintenant. Pour le moment, nous sommes maintenant bien et nous pensons que ça va aller, puisque nous étions éparpillés, sans espoir, depuis notre arrivée. Maintenant, nous nous retrouvons quand même que nous sommes maintenant bien, puisque nous voyons quand même, on nous a donné des parcelles, d'endroits où on peut habiter, une parcelle qui est de 25 sur 50, là où on peut faire nos abris, là où on peut faire nos jardins botaniques, là nous voyons que nous sommes très bien maintenant.
Le HCR n'est pas éternel, n'est-ce pas?
Oui, oui.
Il a été décidé que l'on vous offre ici 2500 hectares. 500 hectares, ce sera pour les habitations et 200 autres pour les champs. Pour votre prise en charge, quelles sont les initiatives que vous mettrez en place vous prendre totalement en charge sur ces sites?
Ok. Nous, étant que comité, avec nos frères, nous sommes déjà convenus de faire l'élevage, de faire l'agriculture, de faire aussi la pisciculture. Nous avons des endroits qui conviennent pour faire cela. Nous sommes déterminés de faire la pisciculture, de faire l'élevage et de faire aussi l'agriculture. C'est pourquoi nous tendons aussi les mains aux autres qui peuvent nous aider à cela, de nous aider vraiment à faire l'élevage. C'est pour ça que nous avons trouvé qu'à faire l'élevage, même si le chef va nous quitter, nous serons très bien, nous allons nous prendre en charge nous-mêmes.
Alors, avec le chef, vous êtes convenu comment les titres de propriété, c'est que chaque personne en a bénéficié, comment ça se passe? Quelles ont été les clauses entre vous, comité, et les chefs localement? Parce que c'est vrai que le SR vient en appui.
Oui, malgré nous sommes comité, mais nous sommes des Congolais, nous sommes chez nous. Le chef, il est chef pour tout le monde. Nous, en tant que comité, nous devons travailler avec le chef en suivant les règles du village. Donc, il n'y a pas à partager que ici c'est le comité, ici c'est le village, oui. Ensemble, nous travaillons pour la population, le chef et nous aussi. D'ailleurs, entre nous, nous avons déjà un comité qu'on appelle le comité mixte de paix.
Comment vous comptez vous y prendre pour aider aussi les autres parce que vous avez été aidé?
Oui, nous avons aussi organisé notre système ici qui nous a une association des rapatriés. Nous voulons travailler aussi, faire des champs communautaires, afin d'aider aussi les autres qui n'ont pas encore la mesure de se retrouver dans leur vie.
Monsieur Jean Gandou, nous vous disons merci.
Merci beaucoup, moi aussi je vous remercie également.
C'était là notre invité, Jean Gandou, l'un des bénéficiaires du projet de stabilisation et de réintégration de 600 ménages rapatriés, projet initié par le ACR. Il s'entretenait avec François Kadima. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.